Bienvenue sur Heureux et Surdoué, Zèbre ou HPI, le podcast qui explore le haut potentiel pour vous aider à mieux vivre le vôtre. Je m'appelle Sylvie Richard et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace bienveillant où vous pourrez écouter mes conversations avec d'autres atypiques qui racontent comment ils ont vécu la découverte de leur HPI et ce que ça a changé dans leur vie. Pour ce 50e témoignage, vous entendrez l'histoire de Sylvain Desbos. Atypique parmi les atypiques, il raconte ses premières impressions après le test et sa passion pour le métier de détective privé. Mais avant de commencer, j'ai un message à vous transmettre. J'ai décidé de faire évoluer le podcast. J'en parle d'ailleurs dans le dernier épisode, durant lequel je suis interviewée par Sylvain Vience. Un autre Sylvain, oui, je sais, ça fait beaucoup de Sylvie et de Sylvain. Je prépare en coulisses deux mini-séries sur les thématiques suivantes: comment s'épanouir au travail et parents d'enfants HPI. Concrètement, une mini-série, ce sera 3 à 5 épisodes sur une thématique spécifique avec un expert pour explorer le sujet en profondeur. Si vous avez des questions sur les deux premiers sujets, donc le travail et la parentalité, écrivez-moi à l'adresse indiquée dans le descriptif. J'espère que cette proposition vous plaira et si ce podcast vous est utile, pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode. C'est vrai, après un peu plus de 3 ans et 50 portraits de HPI, il y a du changement dans l'air. Mais si le podcast évolue, il reste ouvert aux témoignages qui sont l'essence de sa création. Voilà, c'est terminé pour les annonces concernant le podcast. Je laisse maintenant place à mon invité et ça commence maintenant.
J'ai 53 ans, je suis né à Paris, je suis à Montmartre exactement, je suis un poulbeau. J'ai pas grandi là-bas, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 11 ans. J'étais en école primaire, j'étais pas parmi les meilleurs. J'étais pas forcément parmi les derniers, mais voilà. Pour me motiver, mes parents m'avaient promis, c'est une anecdote, m'avaient promis un vélo course à l'époque. Il y avait un test qui était à réaliser, qui était noté sur 100. Et si effectivement j'ai réalisé ce test, si j'avais 70 à ce test, le vélo m'était offert. Évidemment, j'ai eu 69,5 exactement à ce test-là. Alors, pourquoi? C'est le hasard? Est-ce que je l'ai fait exprès? Je pense pas. J'ai quand même eu le vélo, puisqu'en fait, on avait prévu à l'époque le tour du Morvan en vélo avec mes parents, mon frère et ma sœur. Donc, c'était un peu obligatoire que j'en ai un. Est-ce que c'est ça qui a fait que la motivation n'était pas la même? Je sais pas. Donc, ça, c'est pour dire qu'en fait, j'ai toujours été un peu... Je me cite cette appellation borderline parce qu'en psychopathologie, ça veut dire quelque chose. C'est une pathologie, hein, le borderline. Bon, en fait, j'ai toujours été limite en ce qui me concerne. Suite à ça, on a déménagé. J'ai passé mon adolescence, une adolescence très heureuse dans la banlieue parisienne, dans les Yvelines, à Maison Lafitte, où j'ai pas brillé non plus par ce que j'ai fait au collège. Je m'étais plutôt vraiment mauvais parce que ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'a jamais intéressé. On nous parlait de je ne voyais pas l'utilité en fait de ce qu'on essayait de nous enseigner. Mis à part peut-être pour les langues, mais encore fait-il que s'il y a une méthode qui me convienne, et c'était pas le cas. On avait des vieux bouquins d'espagnol, c'était une horreur, des trucs qui dataient de réellement avec des photos en noir et une grosse photo en noir et blanc. Et, bon, c'est... en fait, il y a peu de choses qui m'intéressaient à l'école, mis à part les copains, parce que ça j'en ai toujours eu plein le fait de, on s'amusait bien en fait.
Ouais.
Tout ça pour dire qu'effectivement on a essayé de me virer. Évidemment à l'époque c'était en 5e et 3e, c'était les voies de garage, donc on essayait de nous orienter vers des métiers du secteur secondaire, donc puisque c'était pas mal industrialisé à l'époque. Et d'ailleurs, tout ce qu'on disait au cancre, enfin ce que j'entendais chez moi, c'était tu vas finir à Poissy, tu iras à Poissy, parce que Poissy c'était les fabrications de Peugeot, c'était l'usine de fabrication de Peugeot, et vraiment ouais, c'était pour les gens qui nous faisaient.
Ça voilà. Finira à la chaîne quoi, c'est ça.
C'est ça exactement, c'était un peu le bon. Et puis tu sais toujours, moi ça a été ma grande interrogation, c'était fallait choisir un métier. Oui, mais la problématique c'est que qu'est-ce qu'on va choisir un métier quand on n'y connaît rien, quand on sort de cinquième, il n'est pas question de choisir un métier. Et bon, mes parents souhaitaient que surtout mon père souhaitait que je poursuive. Et donc j'ai ensuite fait un lycée technique. J'ai pas obtenu mon bac. Lycée technique sur Paris, qui était finalement bien plus compliqué. Je pensais qu'on m'avait trouvé une planque et je m'étais dit, tiens, ça va être tranquille là-bas. Et puis en fait, c'était en maths, c'était niveau bac S. Et alors, c'est sûr, en français, c'était moins compliqué. C'était, mais ça ne me convenait pas. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire comme métier toujours ? C'était qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Ça a toujours été la grande interrogation et surtout par rapport à l'ennui. Ça, c'est quelque chose qui me hante, en fait. Le fait de m'ennuyer, de ne pas savoir... D'avoir des journées où j'allais devoir être contraint. Ça, c'est un mot qui est important pour moi, que j'ai du mal à accepter. De me rendre, d'aller gagner ma vie, comme on disait à l'époque, où il fallait choisir. Et en fait, ça ne me plaisait pas plus que ça, quoi. Mais même pas du tout...
Donc, tu ne projetais pas dans quelque chose comme ça.
Non. En tout cas, l'image que je projetais ne me convenait pas du tout. J'ai une sorte de privation de liberté, et ça me faisait très très peur, en fait, de ne pas pouvoir... Parce que quand on est adolescent, et surtout l'adolescence que j'ai eue, où mes parents étaient relativement souples, j'ai profité, vraiment, j'ai une adolescence comme je pense peu de gens ont eu. Parce que, aussi... je suis quelqu'un qui est un peu dans la provocation et quelqu'un qui ose. Et j'ai toujours été un peu au-delà, poussé les limites. Et donc, j'hésitais pas à faire des choses que certains n'auraient pas fait. Et donc, je me suis un peu enrichi comme ça grâce aux autres et grâce au fait que je ne me cantonnais pas à ce que la journée de classe, la journée d'école ou la journée où le sport en dehors des activités extrascolaires pouvait m'offrir. C'est-à-dire que j'ai essayé vraiment d'aller au-delà.
Ok.
Je naviguais beaucoup, par exemple, je sortais beaucoup, j'allais beaucoup me promener dans Paris, mais j'allais dans tous les secteurs, dans les secteurs qui soient populaires, qui soient... Voilà.
Tu te cantonnais pas à quelque chose, en fait. T'étais curieux de découvrir plein de choses différentes.
Ouais, parce que j'aimais bien les gens. J'aimais bien voir un petit peu comment ils fonctionnaient. Voilà, les différents modes de fonctionnement des gens, ce qu'ils pouvaient m'apporter. Et, voilà. Et donc c'est quelque chose qui est assez... que j'ai redécouvert plus tard, qui fait partie un peu de l'intelligence sociale, par exemple.
Ok, et donc, alors... si on reprend, tu commences par passer ce test, c'est un peu ta premier instant avec le fonctionnement atypique qui pourrait en fait révéler chez toi un fonctionnement atypique. Mais en fait, est-ce que on t'a expliqué un petit peu ce test, quel était son aboutissement, quel était l'objectif de ce test, est-ce qu'il y a eu un débrief après par rapport à ça? Ou est-ce que ça a été simplement un test parmi d'autres et puis t'es passé à autre chose ?
Alors, moi j'ai toujours aimé les chiffres. J'ai toujours aimé notamment les pourcentages. Et moi je me suis toujours bien senti dans ma peau. J'ai pas eu de... Voilà, je me suis toujours bien senti. Et comme je suis curieux de tout... Je me suis intéressé un peu au profil qu'il pouvait y avoir, au profil atypique. Alors, je sais bien que c'est un peu la mode à l'heure actuelle, mais j'ai regardé tout un tas de choses. Et puis, un jour, comme ça, je suis tombé sur, comment on peut dire, un descriptif des caractéristiques du HPI qui était vraiment bien fait. Et non seulement il était bien fait, mais qui me correspondait trait pour trait. Et je me suis. En fait, ça m'a fait un peu peur. Parce qu'en fait, ce que j'ai vu, moi, je me considérais comme une personne à part entière, avec une personnalité, avec une manière de vivre, même si. Parce que là, attention, je parle quand même d'il y a quelques années. Hein, je ne parle pas du fait que quand j'étais adolescent, j'ai fait un grand saut. Là. Je me considérais comme une personne particulière, à part entière. Et une entité. Par contre, quand j'ai lu ça, ça m'a fait un peu. Ça m'a fait peur parce que je me suis dit, mais mince, alors, je ne suis pas le seul à être comme ça. Une sorte de sosie, tu vois. Et ça m'a un peu bouleversé, si bien que j'ai, pour l'anecdote, j'ai envoyé ce descriptif à ma compagne et qui m'a dit, waouh, c'est incroyable, c'est exactement toi. Donne-moi les références de ce test, je vais le faire moi aussi. Bah, je lui ai dit, tu sais quoi, c'est pas un test du tout. C'est les caractéristiques, et là, voilà, elle en est restée un peu comme moi, comme deux ronds de flanc. Donc, suite à ça, bon, j'ai continué un petit peu à regarder un peu à droite à gauche, à lire différents livres. Par exemple, je fais une parenthèse sur le livre de Jeanne Siofachin, son best-seller. Moi, je me suis pas du tout reconnu là-dedans. Pas du tout, du tout, du tout.
Pourquoi?
Ça me parlait pas.
Qu'est-ce qui...
On décrit un peu la. Quand on dit. D'ailleurs, on n'aime pas parler de diagnostic quand on a été diagnostiqué. Il y a plein de gens qui n'aiment pas parce qu'effectivement, ça fait référence quand même à une pathologie. Et ce n'en est pas une. Moi, j'ai
Bon, c'est pour ça
l'impression.
que moi, je préfère le terme identifié que
Ouais, c'est ça,
diagnostiqué, mais...
identifier. Mais j'ai du mal à enregistrer celui-là aussi. Moi, ça me correspondait pas parce que j'avais vraiment l'impression qu'on parlait de gens qui sont atteints de quelque chose, qui ont une pathologie, qui ont des problèmes. Moi, ça m'allait pas en fait. Moi, je fais partie de. Moi, je suis. Comment Je dis pas que j'ai pas forcément une pathologie, mais je suis heureux de vivre. Il n'y a pas de malaise à ça. Et en fait, ce qui m'a amené à aller passer le WES4 chez une psychologue spécialisée dans ce domaine-là, qui est à Boulogne-Billancourt, c'est le fait que je suis curieux, j'aime bien m'amuser en fait. Moi, il y a vraiment un leitmotiv dans ma vie, il faut que ce soit amusant, sinon je fais pas les choses.
Ok, tu suis le fil du plaisir.
Complètement, complètement.
Ok.
D'ailleurs, je t'en parlerai après de ma quête un peu vers cette recherche-là d'idéal.
Et du coup, toi, quand tu... Donc, alors, déjà, je vais dire une chose, parce que ça m'a fait beaucoup sourire, c'est qu'en fait, tout à l'heure, je t'ai posé une question. Je sais pas si tu as entendu, mais tu n'as pas du tout répondu à ma question. Mais par contre, tu as répondu à la question suivante, tu vois, tu as anticipé deux questions, moi. Donc ça me fait beaucoup, beaucoup sourire, parce que c'est vraiment, en fait, je trouve, un mode révélateur de ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que toi, tu
D'accord.
vas lire entre les lignes, voire encore entre les lignes des lignes. Et tu vas donner, tu vas aller directement à cette réponse-là. Donc ça, c'est la parenthèse. Et ce que je voulais te demander, c'est tout à l'heure, quand tu as dit que tu avais lu donc sur Internet, sur un blog, les caractéristiques qu'on peut retrouver facilement concernant le fonctionnement potentiel, et que ça t'a parlé, toi, tu as ressenti un mal-être, enfin une gêne en tout cas, parce que tu t'es dit, finalement, je suis pas tout seul, ou on est plusieurs peut-être à être comme ça, alors que tu croyais que ça faisait vraiment partie de toi et que tu étais un peu peut-être original, je sais pas comment le dire, tu vois,
Oui.
enfin, original dans le sens peut-être tout seul à être comme ça. Finalement, tu t'es rendu compte que non, et ça n'a pas été agréable. Je souligne ça parce que souvent, c'est plutôt l'inverse que
Non.
j'entends, où les gens en fait se sentent seuls et isolés parce qu'ils ont un fonctionnement qui les met en décalage, enfin, qui crée un décalage. Et c'est plutôt un soulagement de découvrir que l'autre fonctionne pareil, Et si j'ai bien compris, mais j'ai l'impression que t'étais dans une autre dynamique.
Oui, complètement, puisqu'en fait, on se façonne avec les années, on a vraiment l'impression justement de s'éloigner à partir du moment, la vie d'un enfant, ben, à partir de jusqu'à 7 ans, 7 ans c'est l'âge de raison, et puis au fur et à mesure on apprend, on a deux entités qui sont les parents en fait, et puis ensuite ben, on va commencer à connaître d'autres gens qui vont nous apprendre, on a les enseignants, on a tout ça, mais au fur et à mesure, on apprend et on va se forger vraiment, on va avoir ses convictions, ses idées, et qui sont propres. Il y a tellement de sujets. Puis moi, je suis quelqu'un qui est un peu. Des fois, je m'implique dans certains trucs. Donc, je le vois par rapport à mon entourage, par exemple. J'ai une singularité, j'ai une manière de fonctionner qui est. Voilà. Moi, quand j'entends. Alors. Ça va peut-être te faire sourire, mais tu sais, qu'est-ce qu'il disait quand le sage montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le bout du doigt. Malheureusement, des fois, j'ai tendance à regarder le bout du doigt. Et c'est que j'y vois des choses, en fait, dans le bout du doigt. Tu vois, pour être plus concret, t'entends un bruit énorme dans la rue, ben moi, je ne regarde jamais vers le bruit, en fait. Je regarde ailleurs et c'est là où tu vois des choses en fait, plus que vers l'endroit où s'est passé réellement quelque chose. Donc voilà, ça a toujours été un peu ma manière de. Mon père disait souvent, mais tu peux pas faire un peu comme les autres. Et bon, les autres, c'est quoi? Je sais pas, ouais, je sais pas comment ils font les autres. Bah, en fait, visiblement, les autres suivent certaines règles. On a tendance à dire. C'est ma frangine qui
Il y a
dit.
des injonctions comme ça, ouais, qui sont compliquées parce qu'elles elles te donnent pas non plus, elles t'expliquent pas comment faire ce qu'on te demande de faire.
Tout à fait. Tout à
Moi,
fait.
je me souviens, c'était arrête d'être dans la lune,
Ouais.
spécialement en cours en fait.
Ouais.
Ouais, mais en fait, moi, ça me mettait vraiment en difficulté parce que comment faire pour arrêter d'être dans la lune? Moi, c'était ça que je voulais savoir. Tu vois? Ok, moi, je veux bien, je veux bien être disciplinée, je veux bien faire des efforts, mais sauf que là, tu me demandes un truc et moi, je me rends même pas compte que j'y vais en fait, que je m'en vais. Donc, comment je fais le truc que tu me demandes, tu vois? Donc, ouais.
Ouais, ma frangine un jour avait dit à une de ses copines qui était là, et ça m'était remonté en parlant de moi, en disant que j'étais anticonformiste. Ouais, j'avais 14 ans, quoi. J'étais pas un voyou pour autant, par contre, non. Au contraire, j'étais vraiment déjà. Je vais pas dire. J'étais pas discipliné pour tout, en fait. Je prenais ce qui m'intéressait dans la discipline, en fait. Et donc voilà, c'était un peu ma manière de fonctionner. Et puis.
Ok. Donc tu décides de passer finalement adulte, tu décides de passer le test Wise. Et du coup, comment ça s'est passé?
Ah bah du coup j'arrive comme à mon habitude, très à l'aise. Et puis elle me donne des objets à bricoler, machin, des trucs à faire. Il y a un petit peu de tout, ça m'amuse beaucoup. Et je lui raconte quand même cette anecdote et je lui dis dont j'ai parlé au départ en disant, ben voilà, il y avait un test, il fallait que j'aie 70 et j'ai eu 69,5. Et je lui raconte ça, je lui dis, j'ai toujours été limite dans ma manière de fonctionner. Et donc voilà, elle tire, ça dure longtemps, elle fait son truc. Et puis elle me sort évidemment un score où, ben en fait, je suis HPI en Belgique, mais pas en France. J'ai 129, c'est-à-dire c'est vraiment encore une fois limite comme si je l'avais cherché quoi. Mais elle me dit que je savais exactement où je m'étais trompé. C'est-à-dire que à chaque fois que je me suis trompé, je lui dis là, je me suis trompé. Et il y a un exercice qui m'a pas plu. Je n'ai pas envie de m'embêter avec ça quoi. Donc ça me plaisait pas. Je dis bon, allez hop, on dégage. Ça va, non, je sais pas, ça m'intéresse pas. Off, on dégage quoi. Parce que j'y étais allé pour faire un jeu en fait, avec c'est tout.
T'es pas allé pour performer, t'es allé pour faire quelque
Ah ouais,
chose qui te
complètement. Ouais, non, 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 pas du tout. Ouais. C'est
divertit.
ça, c'est ça. Et ça m'a bien diverti, hein. Ça m'a bien plu. Voilà. Bon, ce qui m'ennuie un petit peu, effectivement, c'est voilà, c'est 129. Ça m'ennuie un petit peu parce qu'on est encore sur quelque chose de j'aurais aimé quelque chose de plus parlant, plus rond, plus. plus caractérisé en tout cas. Voilà. Mais bon, voilà, ça.
Plus catégorique.
C'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Pour revenir à mon adolescence, et pour moi, par exemple, lorsque j'étais en cours, ça ne m'intéresse, ce qu'ils essayaient de m'enseigner ne m'intéressait pas, ça je l'ai dit. Et j'essayais donc de retenir, en fait, je n'étudiais jamais les livres qui nous confiaient. J'essayais de tout faire de tête, en fait. C'est-à-dire, tout ce qui se passait, j'essayais d'être attentif, d'avoir une écoute active, et puis j'essayais de retenir. Mais malheureusement, on retient, voilà, c'est à peu près 10%. Donc je faisais avec ces 10% pour essayer non seulement de faire les devoirs qui s'attachaient à la leçon qui avait été donnée, et en fonction de ça, quand il y avait des contrôles, de faire avec ces 10%. Donc ça ne donnait pas effectivement grand-chose, mais quand j'y repense, finalement, bon à mal an, j'étais pas le dernier, mais je me démerdais avec cette méthode-là, qui était pourrie, je l'accorde, je me démerdais pas mal.
Mais suffisante pour te permettre d'avancer?
Non, j'ai avancé à grand coup de pied derrière, hein. Non, là-dessus, et encore, parce que mon père m'a poussé, sinon, moi je voulais entrer dans la vie active, je voulais voir justement ce qui se passait, pouvoir comparer, tiens, ce boulot-là, il me plaît, ce machin, c'était ça. Moi, et d'ailleurs, j'ai commencé à apprendre quand je suis sorti de l'école, et j'étais toujours sur j'ai lu beaucoup de livres, mais techniques, par exemple, je me suis intéressé à la vente, donc au lieu d'apprendre une méthode de vente, j'ai appris toutes les méthodes qui existaient à l'époque, les méthodes américaines, méthodes AIDA, ADEPT, CONCEPT, et j'ai essayé d'en savoir de plus en plus. Donc, quand je fais quelque chose, je m'investissais à fond, j'étais à fond dessus, mais après, on passe à autre chose, et on va s'intéresser à un autre. Mais il y a tellement de choses qui sont intéressantes, et c'était là, justement, que... Ils n'arrivaient pas, en fait, la problématique de l'enseignement, c'est qu'ils n'arrivaient pas à nous intéresser avec ce qu'ils devaient nous enseigner. Mm-hmm. Et par contre, dans l'enseignement technique, on a des profs qui étaient issus du monde professionnel, qui avaient souvent travaillé à l'entreprise. Là, on avait des gens qui étaient nettement plus intéressants, qui arrivaient à nous captiver, qui arrivaient à nous enseigner. Et pourtant, moi, mon indice d'enseignabilité, il n'était pas forcément meilleur. Mais grâce à ça, justement, c'était... Et on avait, par exemple, une prof de maths, tu vois, qui nous a appris l'algèbre de Boole. Et elle nous a appris ça sans jamais nous parler de chiffres, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle nous a appris des méthodes et des choses comme ça. Elle était formidable, tu vois. Donc, on se souvient, en fait, c'est un débat, mais on se souvient, en fait, des enseignants... Par leur manière de faire, et c'est eux qui nous marquent, c'est pas les enseignants qui récupèrent les trucs de l'année dernière, les notes de l'année dernière, de l'ancien professeur ici. Voilà, donc ça on connaît. Donc on se souvient de 2-3 enseignants, souvent c'est ceux qui avaient du charisme, ceux qui avaient qui savaient parler aux autres, qui dégageaient quelque chose et qui savaient se faire comprendre.
Et du plaisir à transmettre.
Tout à fait.
Aussi. Et là, tu le ressens, ça.
Ouais. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez, très intuitif, en fait. Je fonctionne beaucoup à l'intuition. Donc, ça ne m'empêche pas de me tromper, évidemment. Mais il y a des choses que je sais lire, en fait. Quand je te parlais des formations, bon, avant ça, j'ai fait des formations, par exemple, sur la synergologie, le non-verbal, sur, en fait, ce qu'exprime le corps et non la parole, puisque la parole, c'est je crois, 10%, 10 ou 12% de ce qu'on peut exprimer. Donc, tout ça permet, en fait, d'avoir une analyse et puis d'avoir des conversations qui sont... des choses qui sont beaucoup plus ancrées, beaucoup plus solides, que ce soit si c'est pour l'apprentissage ou des relations qui sont beaucoup plus réelles et sérieuses, vraies en tout cas. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Donc,
de la profondeur.
C'est ça. Donc en fait, quand je suis sorti de l'école, je n'ai pas arrêté de faire des formations tout le temps. Je ne me rendais même pas compte, c'est des trucs qui m'amusaient. Que je payais moi-même. Hein. C'était ça qui était assez amusant d'ailleurs. C'est-à-dire que des fois, j'arrivais dans des formations et j'étais le seul qui était... c'était l'entreprise qui payait, donc on sait la plupart du temps ce que ça donne au moment. Et moi, par contre, j'étais là, c'était moi, mais c'était mes deniers. J'avais payé des formations qui, des fois, valaient cher. Je m'étais débrouillé, machin. Et quand c'est comme ça, on est beaucoup plus investi et on est beaucoup plus enseignable. Et donc voilà, j'ai commencé des formations, j'ai fait pas mal de formations sur la vente à l'époque où j'étais vraiment dans ce... Ça m'a servi un petit peu toute ma vie, parce que la vente c'est intéressant, que ce soit pour toutes les analyses que ça procure notamment, et la manipulation, ce que l'on peut en faire, qu'est-ce qu'on... Et en fait c'est valable dans le mode de vie au quotidien en fait de la vente. Réussir à convaincre les gens, l'aspect séduction, réussir à comment
à les comprendre aussi.
Alors oui, c'est ça. C'est une petite bouche. Le vendeur, c'est une petite bouche avec des grandes oreilles. Hein. C'est l'art d'écouter. Hein. C'est pas celui de parler. Donc tout ça m'a appris. Voilà. Je vais en revenir à mon métier qui est quand même assez particulier. Parce que je pensais avoir...
On n'en a pas parlé pour l'instant du tout.
On n'a pas parlé, non, c'est vrai.
Non, on a parlé de l'enfance, de l'adolescence, de l'entrée après un petit peu dans la vie active où tu deviens autodidacte et où du coup tu t'apprends des choses qui t'intéressent et que tu autofinances.
Oui.
Et tout ça, ça t'a conduit donc à quoi?
Alors, bon, j'ai eu d'autres métiers. D'ailleurs, je vais en parler. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quels que soient les métiers qu'on choisisse, mis à part les métiers artistiques, où en fait, il y avait quelque chose de cyclique. Il y avait quelque chose qui... on en revenait toujours à la même chose. Alors, moins on avait d'études, moins on avait de savoir, moins on avait d'études, plus le boulot était, entre guillemets... un boulot du secteur primaire où on a je sais pas, on peut travailler à l'usine, on a juste un mouvement à faire, on a juste une tâche répétitive. Jusque en fait où on a l'ingénieur, hein, un bac plus 6 qui va travailler sur des projets et qui lui va travailler sur un projet pendant 6 mois, 2 ans sur un projet, mais qui en fait après revient exactement et la plupart du temps se reproduit grosso modo exactement ce qu'il faisait avant. C'est en fait il y a quelque chose de cyclique, de redondant en fait, où c'est uniquement le niveau d'études qui te donne quelqu'un qui a un bac plus 6 aura une révolution qui sera beaucoup plus ample qu'une personne qui effectivement travaille sur où il y a juste quelque chose de
Ouais. La zone d'action est plus large.
Tout à fait. Mais on en revient toujours à ce qui est problématique pour moi, c'est-à-dire la répétitivité. C'est okay. Ça qui...
Donc, ce que tu veux dire, c'est que même quelqu'un qui a fait des études poussées et qui travaille dans un domaine qui peut sembler divers et varié, finalement, va y avoir une répétition dans sa manière de travailler.
Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Okay.
Et d'ailleurs, une répétition juste... Il y a des gens qui excellent dans leur boulot, mais en fait on s'aperçoit, bon, c'est avec l'âge et l'expérience que je me suis aperçu de ça, hein, justement aussi par rapport à mon métier donc, que je vais évoquer, c'est que les gens en fait ils se saturent, hein, à un certain moment, c'est-à-dire que ça demande un tel effort intellectuel par exemple de travailler sur tel ou tel projet qu'en dehors de ça ils sont très bons, en dehors de ça ils sont zéro, ils sont nuls en tout. C'est pas une mauvaise critique que je fais, c'est qu'en fait, les gens, la plupart du temps, ne savent pas compartimenter les choses. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui est inné chez moi. C'est-à-dire que rien ne déborde sur rien. C'est-à-dire qu'un emmerde, c'est un emmerde. Et il est cloisonné, il est ici, à cette place-là. Quand je passe à autre chose, l'emmerde n'existe plus du tout. Ça peut être un moment... et je peux passer, effectivement... En fait, jamais rien ne m'a empêché de dormir, moi, jusqu'à présent. J'ai un sommeil réparateur dont j'ai extrêmement besoin, souvent. Je sais pratiquer ce qu'on appelle les micro-siestes. Alors, je ne la fais pas à la Dali, où lui... Il y avait le comte de machin aussi qui servait de son thé avec sa cuillère. Et dès qu'il s'assoupissait, paf, il tombait, la cuillère tombait dans la, Donc Dali le faisait aussi, mais c'était pas avec son thé. Et donc ça, c'est quelque chose que je sais faire, c'est extrêmement réparateur, et ça peut durer 5-10 minutes, et ça me... Et après, je repars. Parce qu'il y a des choses qui m'épuisent. Il y a des choses qui
Lesquelles, par
m'épuisent.
exemple? Tu savais que j'allais te poser la question.
J'aurais préféré que tu ne me la poses pas, mais... je vais essayer de donner un exemple. Bah, je suis beaucoup en rapport avec la justice, donc il y a des choses... Je ne suis pas pourtant quelqu'un de procédurier, je suis quelqu'un d'extrêmement tolérant, mais j'ai une profonde horreur de la justice. Et comme tu vois, je suis assez costaud, mais je suis vraiment quelqu'un de pacifique. Et donc, au bout d'un moment, bah, quand il n'y a plus de solution, bah, on va... Je me suis retrouvé pas mal de fois au tribunal, mais c'est souvent moi qui ai fait des actions, mais je me suis retrouvé aussi. Mais j'ai toujours bien sorti. Voilà. Et
D'accord.
quand je te dis ça, quand on sort du tribunal et quand on a fait, on a été, pour moi, bon, ça me pose pas de soucis, je sais m'exprimer, voilà, même si au début c'était un peu plus difficile. Mais quand on ressort de là-dedans, en fait, j'ai tellement tout mis, comme un peu one man show, je me suis tellement que je suis vidé. Et je peux m'endormir, voilà, hop, je m'endors, et après je me répare tout de suite, toc, toc, et on passe à autre chose. Donc je sais quelque chose que je sais faire, il n'y a rien qui déborde sur rien, tout est cloisonné, et c'est comme ça que je vis. Alors, c'est instinctif, ça n'avait pas de... je m'en suis aperçu plus tard. Voilà. Et donc j'avais donc mon questionnement. Un jour, je me suis intéressé, j'ai voulu rentrer dans la police, et j'ai eu pour faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc j'étais accepté, j'étais attendu à l'école de Rungis, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et je suis quelqu'un qui sait. Est-ce que je sais lire? J'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai eu une altercation avec dans la semaine où je devais rentrer, j'ai eu une altercation avec un flic de la police. Et ce flic-là, en fait, il n'avait rien écouté, il était complètement alcoolique. Et je me suis dit, oula, je suis pas tombé sur le bon truc. Et ça m'a rappelé des mauvais... C'était pas un flic alcoolique, je dis des conneries. C'était un flic qui était extrêmement vindicatif et très agressif. Et du coup, ça s'est mal passé. Et j'ai été déféré devant un OPJ. Et l'OPJ, je me dis, bon, on va s'expliquer, il a rien compris. Et l'OPJ, en fait, il se trouve, quand on ouvre la porte, je vois un alcoolique d'une soixantaine d'années. Je dis, putain, s'il n'était pas sorti, merde. Et bon, non,
L'OPJ aussi.
non, non, l'autre, il n'était pas... L'autre, c'était quelqu'un de très agressif. Quelqu'un de très
Ah, ok,
agressif. Voilà.
d'accord.
Dans le cadre où moi, j'avais appelé, j'avais eu recours, j'avais demandé. Et là, lui, en fait, il était alcoolique, mais il n'était pas si con que ça. Il était encore... peut-être sobre à ce moment-là, et en fait il a tout de suite compris. Mais moi, en sortant de là-dedans, ce que j'avais surtout compris, c'est que j'avais rien à foutre avec ces types-là. Rien.
Ok.
Et donc, je me suis intéressé, parce que je peux être un peu rêveur des fois aussi, à un métier qui est celui de détective privé.
D'accord,
Et à cette
ok.
époque-là,
Et c'est suite à cette expérience-là?
Oui, parce que je me cherchais encore, hein. Je cherchais un petit peu ce qui pouvait m'animer, ce qui pouvait m'intéresser, et c'est surtout et découvrir aussi. Ça, c'est important aussi de découvrir l'aspect nouveauté qui est toujours. J'aime bien les nouveautés parce que ça procure souvent des sensations qu'on va pas trouver ailleurs. Il y a souvent il y a une espèce de pas de combat, mais il y a une adaptation à faire. Il y a l'inconnu, l'inconnu, bah, ça reste toujours intrigant. Ça reste donc ce métier-là, en fait, de détective privé. J'ai vu qu'effectivement, il se pratiquait, il existait en France, et qu'il n'était pas réglementé comme il l'est maintenant. Et donc, moi, je suis passé. Bah, par la petite porte, c'est-à-dire que j'ai obtenu un agrément, mais comme tout, c'est-à-dire que moi, la manière dont je fonctionne, c'est quand je... Par exemple, si je fais une formation sur un thème particulier, je vais être obligé de l'étudier avant, en fait. Et ce qui fait que quand je vais y aller, je vais avoir des questions pertinentes. En règle générale, on n'entend qu'un seul con, c'est moi qui pose des questions. Et je participe d'une manière active souvent. Et là, c'était un peu pareil, c'est-à-dire que je me suis mis à disposition d'agences pour dire, voilà, parce que je voulais quand même savoir à quoi ça ressemblait et puis pas avoir l'air trop con. J'ai horreur de débarquer dans un truc en... Moi, y a... l'amateurisme, ça me... c'est un mot que dont j'ai horreur. Et donc, je me suis intéressé à ça et je me suis intéressé à ce métier-là dans une agence et suite à ça, bah, j'ai commencé à évoluer dans ce domaine-là, c'est-à-dire que j'ai commencé à me spécialiser dans ce métier-là. Au début, on fait que de la filature, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'expérience. On pourrait recevoir les clients, mais on n'a pas la carrure, le professionnalisme. Et donc, au début, en fait, on travaille, on est ce qu'on appelle fileur, on travaille pour des agences. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on apprend un peu c'est le béaba, la filature, c'est-à-dire suivre quelqu'un. Que ce soit en voiture, en moto ou à pied. Et on apprend, voilà. Alors, ce qui est compliqué, c'est que quand on suit quelqu'un, ben, on adopte sa vie, mais on a aussi la sienne. Ce qui fait qu'en fait, vous vivez plusieurs vies en même temps. Et ce qui peut être un peu, au début, ce qui peut être un peu épuisant. Il y a quelque chose qui, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une grosse différence entre les filatures où on a quelqu'un dans une boîte, dans une voiture par exemple, et la filature à pied. Et je me suis aperçu que la filature à pied, sur une personne à pied, bah, en fait, sans avoir de communication avec la personne par sa posture, sa manière de faire, en l'observant, pouvait vous apprendre plein de choses. Et... Par exemple, tiens, je vais en citer un sur une affaire en particulier. C'est des parents qui avaient fait appel à moi, par exemple, pour leur fils, mais qui avait 35 ans, parce que la banque les avait appelés, chose qu'ils n'ont, pour leur dire, voilà, votre fils, il a un très très gros découvert, alors que le fils, il gagnait bien sa vie, il a, voilà. Et ils voulaient savoir ce qui se passait. Donc, on sait comme ça, le jeu, est-ce qu'il a trouvé une femme qui dilapide un peu ça, qui a trouvé un pigeon ou.
Forcément, c'est la femme.
Non, mais ça, non, mais ça peut en faire partie. Et
Ah oui, bon, j'arrive.
oh, il n'y a pas que ça. Hein. Il peut y avoir toutes sortes. Il peut y avoir des addictions. Il peut y avoir, voilà, simplement quelqu'un de très généreux, je sais pas. Pas là en l'occurrence. Alors, on avait affaire. Donc, ce type-là, je l'ai suivi. Et puis, c'était dans le 18e. Il passe devant un bureau de poste où il y a des types qui faisaient la manche. Il y avait et le type qui faisait la manche se lève. Et va à sa rencontre comme ça. Et lui, le premier geste qu'il fait, il met sa main dans ça. Et il donne son port. En fait, il fait à l'image des petits vieux qui quand ils vont chercher la boucherie ou n'importe quoi, ils font choisir les pièces parce qu'ils ont mal ou ils n'ont pas envie de compter.
Oui.
Et ben là, c'était pareil en fait, sauf que lui, il a 35 ans. Donc il donne son porte-monnaie, le SDF se sert, et il lui redonne. On était limite un peu du racket, quoi. Donc il y avait.
D'accord.
Donc ça m'apprenait un peu sur la manière. Mais il n'y a pas que ça. Donc pour terminer là-dessus, ce type-là, il passe devant un truc, il passe devant une boutique. Puis je vois, je dis, tiens, c'est bizarre, il jette un petit œil, il repasse devant, il rejette un œil. Je dis, mais qu'est-ce qu'il. Un peu à la manière de la première fois quand on rentre dans un sex shop. Hein. Et ben lui, c'était le boucher. Il voulait pas. Voilà, il craignait, il y avait du monde et machin, il se sentait pas parler devant tout le monde pour commander son steak ou je sais pas. Donc il y avait vraiment un problème. En fait, le souci, c'était qu'il y a une femme, effectivement, qui avait 1000 grains pintus, qui habitait en face sur le même palier que lui, qui a vu que c'était un célibataire. Économe et voilà, et il était tellement mal dans sa peau, tellement voilà, elle l'avait allégé de toutes ses économies. Voilà, donc ça a permis aux parents, ça c'était intéressant parce que ça a permis aux parents de voir jusqu'où était l'étendue de la problématique de leur fils et puis de trouver une solution parce que voilà. Donc ça c'est intéressant, mais des fois rien que sur le. Quand je dis c'est. Ça nous apprend beaucoup sur la personne, c'est la posture de la personne, la manière dont elle se tient, la manière dont elle marche, à quoi elle s'intéresse, qu'est-ce qu'elle regarde. Le type, je regarde, tiens, il y a une jolie fille, tac, il la regarde, il regarde telle ou telle chose. Il y a plein de choses en fait qui peuvent nous apporter des
Et toi,
réponses et des renseignements.
qu'est-ce qui te plaît en fait là-dedans du coup? C'est parce que tu prends ça comme un jeu ou c'est parce que tu essayes de comprendre l'autre un peu comme une énigme? Enfin, En fait, j'essaye de faire le lien entre ce choix de métier et ce que tu décris, en tout cas de tes débuts. C'est peut-être un peu différent aujourd'hui, mais de ce que tu décris là. Et avec ce que tu sais aussi de ton fonctionnement atypique, du haut potentiel, et comment les deux peuvent s'influencer.
Alors, en fait, c'est un métier qui est quand même tout à fait à part parce qu'on n'a jamais deux journées qui se ressemblent, jamais.
OK.
C'est un métier où on a une multitude de choses à faire. Quand je dis multitude, c'est qu'il y a très peu de gens dans la profession qui ont. Il y en a un qui est connu, qui est un criminologue, qui a choisi un peu une voie, mais il y en a très peu qui font. On est quasiment tous généralistes, et moi d'autant plus. Parce que il y a plein de choses qui m'intéressent. Par exemple, je fais ce qu'on appelle la contre-mesure électronique, c'est-à-dire des dépoussiérages, c'est de la recherche de caméras et micros cachés, qui peut y avoir dans un bureau, une salle de réunion, ou tout simplement dans un couple qui se sépare. Les hommes sont assez friands du matériel qu'on peut déposer pour écouter, tiens, qu'est-ce qui se passe, machin, ici, ça. Il y a tout un tas de voilà. Donc je fais ça, mais c'est pas réellement ma spécialité. C'est quelque chose que je fais en plus. Bon, moi, il y a des choses qui me plaisent dans ce métier-là. Il y a des choses que je fais qui me plaisent. Il y en a d'autres que je vais maintenant caractériser comme étant plutôt alimentaires. Mais d'une manière générale, moi, ce qui me plaît, je suis spécialisé dans les auditions de témoins.
D'accord.
Ça peut être parce qu'il faut pas croire qu'effectivement, dans une affaire de vol, on appelle systématiquement la police parce que des fois les gens, si c'est des œuvres d'art, ne sont pas forcément déclarés, ils ne veulent pas dire. Puis bon, même dans une entreprise, des fois, il s'est passé cet événement un peu d'un vol. On ne veut pas non plus, en plus, aggraver la situation en faisant venir. Donc, bah, des
Ouais,
fois, oui, on.
quand il y a un besoin de discrétion, en fait.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis bon, et puis il faut savoir que la police n'enquête pas sur tout. Hein. Si c'est un crime
Donc.
de sang, oui, mais le reste, ils ne vont pas forcément enquêter. Ils sont débordés.
Ok.
Voilà.
Donc, en fait, tu as trouvé une profession qui te permet d'évacuer la routine.
Oui, complètement, parce qu'en fait, quand je te parle de spécialisation là-dessus, en ce qui concerne les entrevues, comme appellent ça les Canadiens, par exemple, il existe des méthodes. Et c'est là où je rebondis, puisqu'en fait, les méthodes qu'on utilise sont cataloguées. En France, il y a une méthode particulière. En Angleterre, c'est une autre. Moi, l'avantage, c'est que je
En
suis pas
fonction des cultures.
de la loi surtout. Je n'ai pas le
Ouais,
droit de faire pression psychologique. J'ai pas le droit de. Voilà. Et moi, en ce qui me concerne, n'étant pas rattaché, je fais ce que je veux, évidemment, dans le domaine du légal. Mais j'utilise la méthode qui me convient, la méthode que je veux. J'avais mis une méthode qui était. Je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle le polygraphe, le détecteur de mensonges. J'ai fait des formations sur la détection du mensonge. C'est assez compliqué. Comme ça, il faut savoir que on ne peut pas dire, tiens, lui ment. Il est décelable qu'à 51%. Donc autant dire qu'on se trompe une fois sur deux. Mais
D'accord.
il existe des méthodes. Et moi, j'avais mis une méthode en place avec un psychologue, qui est un copain. Oui, j'ai beaucoup, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de potes psychologues. Et qui consistait justement à entendre, à poser des questions particulières que j'avais élaborées à l'avance, et de voir un petit peu les réactions, c'est-à-dire faire du décodage. Et là, on est effectivement sur une non-verbale. Notamment, j'avais fait ça pour une société qui faisait beaucoup d'encaissements en espèces sur des machines des distributeurs, notamment de café.
D'accord, ok.
Et ils avaient eu beaucoup de problèmes parce qu'ils avaient été saucissonnés plusieurs fois parce que ils ont embauché souvent des jeunes de banlieue pour faire la récolte donc de l'argent en espèces, et il y avait énormément d'espèces. Donc plusieurs fois, ils avaient eu des ennuis, et je leur ai proposé cette méthode-là. Puisqu'en France, il faut savoir, on n'a pas accès au casier judiciaire. Donc moi, je leur avais proposé cette méthode qui consistait à l'analyse le décodage, en fait, le décodage de. Donc ça c'est intéressant pour ça. J'ai une spécialité qui est aussi la détection. Je suis spécialisé dans les lettres anonymes. Non pas que je les envoie, mais à la détection de l'anonymographe, en fait. retrouver la personne qui les écrit. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que ça correspond à une pathologie. Voilà, là, tout le monde n'écrit pas une lettre anonyme. C'est
Bah
oula,
oui, bah oui.
c'est comme le fait de réitérer quand tu fais une altercation, il y a des gens qui te disent ouais, je vais te tuer. Bon, bah, il faut savoir que c'est pas condamnable. C'est condamnable à partir du moment où il y a une réitération. Tout ce qui est, lettre anonyme, en fait, pourquoi il faut une réitération? Parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui passent, en fait, qui passent à l'acte, en fait, quand le mec dit je vais te tuer, la plupart du temps, et heureusement d'ailleurs, il se passe jamais rien. Et pour ce qui est de l'anonymographe, en fait, il y a plein de gens qui disent, ça t'est déjà arrivé, oh, je vais le dénoncer, lui, c'est pas normal, on devrait le dénoncer, et si et ça. Mais la plupart du temps, on ne le fait pas parce que c'est pas dans notre. C'est pas dans nos gènes de dénoncer les gens comme ça, c'est pas dans notre esprit, dans nos mœurs, et on ne le fait
C'est
pas.
même pas l'objectif au moment où c'est dit, en fait, hein.
C'est
On s'est dit
ça.
l'objectif, c'est d'évacuer la pression, mais c'est
C'est
pas.
ça. Or, il y a des gens qui le font. Et ces gens qui le
Ouais.
font, en fait, correspondent à une trame bien précise. Voilà, bon, j'en dirai pas
Ouais.
plus, je vais pas
Donc,
m'attarder plus
en
là-dessus.
fait, il y a la diversité des tâches, il y a la diversité des situations, il y a beaucoup de subtilité aussi dans l'approche psychologique et l'approche humaine.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait, qui t'attirent particulièrement dans ce métier et qui pourraient être expliquées par une partie de ton fonctionnement, en tout cas, je sais pas,
Alors,
on peut dire comme ça.
c'est pas ce métier-là, c'est pas un métier qu'on peut faire comme ça en se disant c'est un métier qu'on peut faire qu'avec passion. J'avais une anecdote au début quand j'ai démarré, j'étais allé voir une agence et le type m'avait dit pour faire de la filature, parce qu'on démarre en tant que fileur, m'avait dit et vous êtes patient? J'ai dit non, je suis pas patient. Ben, il m'avait dit ben, ce métier-là n'est pas pour vous. Et moi je me considère pas comme quelqu'un de patient, même si des fois, ben, faut savoir qu'en une filature c'est 90% d'attente, 10% d'action. Je t'avais dit que j'aimais bien les pourcentages, hein, donc c'est pas forcément très 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 visuel. D'ailleurs, j'ai fait des émissions de, j'avais fait des, j'ai fait deux 90 minutes enquête à la télé. Il y en a un qui est jamais passé parce qu'en fait, il n'était pas assez dynamique. Le premier, oui, il était passé, machin. D'ailleurs, on nous avait demandé si c'était pas truqué, si c'était pas de la mise en scène. Non, il était vraiment très dynamique. En plus, ça les intéressait parce que le sujet était particulier. Mais voilà, c'est pas. J'ai perdu le fil.
C'est 90% d'attente et 10% d'action.
Ouais,
Donc, tu parlais de la patience.
voilà, c'est pas un
Parce que pour
cri.
toi, c'est la passion qui te fait tenir, en fait. C'est pas la patience, c'est un
Oui,
peu.
puis c'est pas un critère. Tu sais, quand il y a attendre, et tu sais, c'est un petit peu à l'heure actuelle, on te dit c'est les Hollandais qui ont fait ça, c'est à la mode chez eux, qui consiste à des formations sur pour ne rien faire en fait. Ne pense, c'est la même chose qu'on te dit, ben, ne pensez à rien. Ben, ne pensez à rien, c'est compliqué de ne penser à rien. Ça se travaille, ça. Et il faut savoir quand tu fais une filature ou quelque chose comme ça, ben, tu as toujours quelque chose à regarder. Il se passe plein de choses. C'était pas au milieu du désert. Et même au milieu du désert, je pense qu'il se passe aussi des choses. Donc c'est ça. Je pense que ce métier, c'est plus de la curiosité. Et pour pouvoir répondre à l'attente, il faut avoir derrière du vécu. En fait, on ne peut pas répondre, il faut avoir du vécu, de vécu. Voilà, moi je suis quelqu'un qui était marié, qui est divorcé, qui était. Bon, voilà. Et donc je sais un peu comment ça se passe, c'est ça. Et puis j'ai appris énormément avec les clients. J'ai appris énormément. C'est eux qui m'ont enseigné, en fait, sans le savoir. Parce que lorsqu'on a un entretien, bah, ils t'expliquent voilà, quelle est leur problématique, comment ça se passe et tout. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis rendu compte, et ça c'est assez amusant, et je le dis puisque j'ai travaillé pour des gens qui étaient. Parmi les plus grosses fortunes au monde et après des gens normaux, et en fait les problématiques sont exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Hein, je parle dans un conflit par exemple familial, c'est exactement la même chose. Et voilà, ça fait pas des gens plus heureux que nous, hein, franchement. C'est assez hallucinant d'ailleurs,
Ouais,
quoi.
moralité.
Ouais, non, mais
Ok.
réellement, réellement. Ouais.
J'ai une question. Est-ce que le fait d'avoir passé le test, d'avoir du coup identifié le haut potentiel, est-ce que ça a Ça a influencé ta manière de travailler? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de faire? Voilà.
Alors,
Est-ce que ça a changé quelque chose?
c'est une bonne question parce que moi j'ai toujours l'impression, et ça c'est de solitude. J'ai toujours eu cette impression de solitude, et surtout avec en plus avec ce métier-là où tu sais malheureusement bah, il n'existe pas de salarié, où t'es très 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 peu, on est toujours tout seul. Donc quand c'est comme ça, bah, on essaye de s'accrocher, on essaye de s'accrocher aux autres. Parce qu'en plus, quand j'aime, moi, je partage. Il faut absolument que je partage. Si j'aime quelque chose, je ne vais pas l'acheter en une fois, je vais l'acheter en double pour pouvoir l'offrir à quelqu'un. Pour l'offrir. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui a changé? Eh ben, c'est en fait, ça a justifié un peu le fait que je puisse me permettre de temps en temps enfin, de temps en temps. Non, c'est l'inverse. Que je puisse me permettre tout le temps de faire le con et de temps en temps d'être sérieux. Ça m'a. Voilà. Parce que oui, je fais souvent, souvent, souvent l'imbécile. Par exemple, j'ai une copine un jour qui m'a dit, mais on dirait la fesse dans la rue. Tu sais, moi je l'appelle le roi. Je l'appelle
Je
le
sais.
roi de l'impro. C'est-à-dire que j'ai une capacité, c'est une des seules que j'ai, à pouvoir. rencontrer quelqu'un et je peux discuter avec lui, mais ça m'arrive d'ailleurs, ça peut être infernal pour la personne qui m'accompagne parce que je peux trouver quelqu'un dans la rue, dans une boutique, n'importe quoi, paf, il y a quelque chose qui m'attire, je discute et paf, on échange, et d'un seul coup, je m'aperçois qu'il y a 1 heure que je suis attendu depuis voilà, 1 heure, machin, ou alors je quitte la personne, je retrouve une autre, ouais, c'est-à-dire que vraiment, les gens sont intéressants, les gens m'intéressent en fait, parce qu'ils ont tous quelque chose, le tout c'est de savoir. Voilà, on peut pas les écouter sur tout, mais savoir récolter ce qu'ils ont à offrir en fait, et qu'ils sont contents la plupart du temps. Donc ça a légitimé un peu le fait, après ces résultats, que je pouvais faire un peu ce que je veux. Ça m'a conforté
Ouais.
dans ma.
En fait, ça t'a autorisé.
Ouais, c'est ça. Moi, la liberté, c'est quelque chose auquel je tiens, et je m'aperçois qu'il y a très peu de gens qui savent en profiter. Et ça peut susciter d'ailleurs des jalousies de savoir que moi, un des mots que je déteste, c'est la contrainte, par exemple. Je ne peux rien faire sans contrainte. Et il
Ouais, c'est ce
faut.
que tu disais au début.
Ouais. Et pardon de me répéter alors.
Non,
Et
non,
merci
mais
de me
vas-y,
suivre.
développe du coup,
Et
parce que
merci
tu
de me
l'as juste
suivre.
abordé rapidement, je disais pas ça.
Oui, je peux faire les choses qu'avec que si vraiment. Si vraiment je me passionne, si vraiment il y a un intérêt, refaire les choses 2 fois de suite, des fois ça me je peux pas. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après j'ai essayé de trouver, je me suis dit ben tiens, un peu comme tous d'ailleurs, dit ben tiens, quels sont les gens qui autour de moi pourraient être alors du coup comme un chien hein, parce que je t'ai dit que j'avais de l'instinct, j'ai du flair, hein, c'est alors je l'ai reniflé hein. Mais je me suis aperçu aussi, parce que c'est quelque chose que j'avais étudié, qu'il y avait des PN dans mon entourage aussi. Et c'est vrai qu'on les attire, quoi. On les attire. Et moi, personnellement, j'en ai pas peur parce que je les connais, je sais comment ils fonctionnent. J'ai cette prétention et je sais que je ne me ferai pas avoir. Mais en fait, des fois, ils ont. Comment on dit, ils ont le masque de l'agneau, on peut les prendre certains peuvent les prendre pour des HPI au départ quand même. Si on ne sait pas bien faire l'analyse, on peut vraiment se faire avoir avec.
Peut-être
Donc.
qu'on peut être les deux aussi, hein. Je sais pas, sinon c'est une question, vraiment, je n'ai pas tellement creusé ce sujet-là. Donc non, on peut pas.
Non.
Non,
Non.
vraiment pas.
Non. Non,
Ouais, je
non,
sais
non, non, non,
pas.
non, 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 parce que. En théorie, non, hein. Moi, parce que j'ai lu, non, non, non. Non, parce qu'il y a quand même des caractéristiques particulières qui sont propres à l'un et pas à l'autre. Et. Non, non. Bon, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui est vraiment le stéréotype de ça, et quand je le présente, alors du coup, je pourrais pas lui montrer. Quand j'en parle, je dis, bah, tu vois, chez lui, 98% de pourri. Et 2% d'intéressant. Pourtant, il y a 20 ans que je le connais. Et c'est vraiment le PN par excellence, quoi. C'est vraiment, il coche toutes les cases et il les coche deux fois, quoi. Et que ça soit les addictions, les perversions, le mensonge permanent, le fait de faire mal aux autres, il y a que ça tourne que lui. Mais voilà, quoi, c'est... J'en passais les meilleurs, je ne veux même pas donner l'exemple parce que je préfère parler de quelque chose de plus constructif. Hein.
Ouais.
Mais voilà, moi, il y a quelqu'un qui nous anime, c'est pourquoi je fais ce métier de détective-là? Aussi parce que j'ai l'impression d'apporter quelque chose aux gens qui sont souvent dans la tourmente. On intervient souvent dans des moments qui sont, j'appelle des moments de crise, que j'ai réussi à déterminer la plupart du temps, au minimum c'est 6 mois, voilà, il faut jamais que ça excède trop, parce qu'après, effectivement, j'ai vu des gens qui étaient dans ces périodes de crise qui n'arrivaient pas à trouver une solution, malgré les informations qu'on pouvait leur apporter, le rapport, parce qu'on rédige les rapports, tout ça, mais qui n'arrivaient pas à dire, voilà. Et c'est ça. Et bah, ces gens-là, après, bah, ils perdent leur boulot, ils perdent 20 kilos, ils
ça
perdent
détruit.
Leur boulot, complet. Et donc, il ne faut pas en arriver là, il y a des gens quand même arrive à aider, qui arrive à sortir, et c'est pour ça qu'effectivement je continue à œuvrer dans ce sens-là, parce que des fois je vais au-delà de mon, c'est ça qui fait ma différence en tant qu'enquêteur privé, c'est que je vais souvent au-delà de ce que mon boulot, mon métier me permet de, je donne mon avis personnel, et parce qu'à force de
en précisant que c'est ton avis personnel,
tout à fait.
C'est un lien, voilà, ouais. c'est après, chacun fait ce qu'il veut, quoi.
Mais... C'est ça. C'est le détective qui vous parle, ici et ça. Et c'est amusant parce que souvent, j'ai des retours en disant, mais... c'est-à-dire que quand on connaît, bah, on arrive à anticiper. Hein. Et l'anticipation, bah, si on pouvait anticiper, bah, ça n'a pas de prix. Et quand on arrive à leur dire, voilà ce qui va se passer maintenant, voilà, bah, en fait, on les a bien aidés. Et souvent, y a des retours qui... Il peut y avoir des retours vraiment très... positifs, encourageants et qui font du bien, quoi.
Je comprends ce que tu veux dire. C'est chouette. Écoute, ben, je te remercie d'avoir partagé ton expérience et de nous avoir aussi parlé de ce métier secret, habituellement, quand même, et très discret, de détective privé, et de nous avoir expliqué aussi... ce qui t'anime, ce qui t'intéresse particulièrement dans ce métier. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais si tu y arrives en très, très peu de temps, parce qu'il nous reste moins de 3 minutes, mais si tu as un dernier message, en fait, que tu aimerais faire passer aux gens qui vont écouter cet épisode et qui te tiendraient particulièrement à cœur.
Oui, alors, moi, je pense l'important... ayant rencontré pas mal de gens, parce que tout à l'heure j'en ai pas parlé, mais j'ai rencontré pas mal de gens, je me suis rendu compte que beaucoup avaient un mal-être. Et surtout, malheureusement, chez les femmes. Donc, beaucoup étaient en thérapie et tout. Et moi, je pense qu'il faut se cantonner au présent. C'est vraiment le présent. Moi, j'ai toujours vécu avec le présent. Je ne sais pas me projeter sur l'avenir. Et en vivant le présent... quand je dis présent, c'est qu'est-ce qui peut me faire du bien à l'heure actuelle. Ben là, je suis content, effectivement, de pouvoir discuter avec toi, Sylvie. Je suis content de faire ce podcast. Et c'est ça, en fait, qui va faire... tout à l'heure, il y aura un autre petit plaisir. Ce sont des petites choses comme ça qui permettent d'enjoliver et de vivre pleinement sa vie. Il y en a plein qui me posent la question, qui me disent, mais t'as eu combien de vies? Parce que bon, je n'ai pas parlé de tout, parce que je ne peux pas parler de tout. Mais je suis aussi... je me suis lancé dans l'apiculture, et évidemment... Je ne fais jamais les choses à moitié, donc j'ai beaucoup de ruches. Je suis producteur aussi. J'ai lancé les derniers producteur d'ail noir. C'est quelque chose de particulier. Bon, tout ce qui est en rapport avec la santé et le bien-être m'intéresse. Donc moi, je dis aux gens, faites vraiment quelque chose qui vous fait du bien, des petites choses. Faites les choses pour vous et ne vous interdisez rien, en fait. C'est surtout... Et personne ne doit vous freiner, en fait. C'est vous qui décidez de ça, de telle ou telle chose. Les gens doivent vous... surtout s'ils savent que vous êtes HPI, respectez vos moments où vous avez besoin de solitude, de vous retrouver, et de tout ce que vous allez pouvoir, même si c'est pas forcément des réussites, mais c'est des expériences. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut vraiment aller.
Donc, respecter son rythme et puis aller vers ce qui vous fait plaisir.
Tout à fait.
Merci beaucoup Sylvain pour ta participation sur ce podcast. Je te remercie.
Moi, je te remercie. Merci, au revoir.
À bientôt Sylvain.
C'est déjà la fin de cette conversation avec Sylvain. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez soutenir ma démarche en illuminant les étoiles du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et ajouter un commentaire. Pensez également à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Enfin, pour me contacter, c'est facile. Vous trouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif du podcast.